Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Amis joueurs, amis joueuses, bonjour et bienvenue. Comme chaque jour, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un nouveau jeu de société à découvrir, à partager et surtout à savourer autour d'une table. Aujourd'hui, préparez vos valises car nous partons pour un voyage à travers la France avec un jeu de collection aussi malin que dépaysant. Que vous soyez amateur de stratégie, de belles illustrations ou simplement curieux de découvrir les richesses de nos régions, ce jeu va vous faire voir l'Hexagone autrement. Et en deuxième partie d'émission, cap sur l'aventure collective avec des jeux engagés et écologiques. Parce que jouer, c'est aussi une façon de réfléchir, de coopérer et pourquoi pas de changer le monde. On retrouvera pour l'occasion Laura De Gracia, éditrice du studio Collective Adventure. Alors installez-vous confortablement, préparez vos meeples et c'est parti pour une nouvelle exploration ludique. Au menu aujourd'hui, c'est 15 jours en France, un jeu de Rémi Coletta illustré par Julie Gruet pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et édité par Collective Adventure. Le but du jeu, remporter un maximum de points de victoire en accomplissant les missions données par vos rencontres en 15 tours à travers la France. Au niveau matériel, vous avez 96 cartes lieux, moitié nord et moitié sud, les cartes rencontres et les jetons pas. Au niveau de la mise en place, vous faites une rivière de 4 cartes avec les lieux du nord et 4 cartes avec les lieux du sud. Chaque joueur va regarder 2 cartes rencontres sur les 3 qu'il a reçues et reçoit 4 jetons petits pas. Le dos de la boîte vous sert à compter les tours. Voilà, vous êtes prêt à jouer. C'est parti pour 15 tours. Mais alors comment on joue ? À votre tour, vous allez soit voyager, soit rencontrer, soit prendre des petits pas. Si vous prenez des jetons au petit pas, vous en prenez 4, ça vous aidera à acheter notamment les cartes sud ou nord. Si vous voyagez, vous allez devoir acheter une carte lieu en dépensant des petits pas. Certaines cartes vous donneront une récompense. Ce qui est important, ce sont les symboles qui se trouvent en haut de la carte. Il peut y en avoir plusieurs, comme paysage remarquable, patrimoine historique, site naturel, Bordeaux, village pittoresque, espace culturel. Ces pictos sont importants par rapport à l'autre action rencontrée. Cette action, elle, consiste à piocher 2 cartes rencontres, les mettre dans sa main avec les 2 reçues en début de partie, plus celles que vous avez cumulées au cours du jeu. Puis vous en défaussez une, pas forcément une que vous venez de piocher, hein, non, vous pouvez défausser celle que vous voulez. Ces cartes rencontres, façon carte postale, sont des missions à remplir, des objectifs, comme posséder tant de cartes du Nord ou avoir 4 cartes avec le picto patrimoine historique. Chaque carte vous donne des récompenses. Par exemple, si vous possédez 6 cartes sud ou si vous avez plus de villages pittoresques par rapport aux autres joueurs. Plus la mission est difficile, plus vous avez des points de victoire représentés par des petits smileys. Au bout du 15e tour, on compte tous les smileys, ceux présents sur les cartes lieux et ceux récupérés grâce aux rencontres. Celui qui en a le plus remporte la partie tout simplement. Alors ce que j'en pense de 15 jours en France, c'est un jeu accessible, un gameplay simple qui nous fait voyager et découvrir les paysages de France avec de sublimes illustrations. On retrouvera une carte bien entendu représentant la côte de Granit Rose, alors ne traînez pas à valider vos cartes rencontres car 15 tours c'est court, alors choisissez le bon itinéraire. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants pour continuer à parler de Collective Adventure avec Laura De Gracia.
Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique, les jeux c'est magique.
Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Laura De Gracia, éditrice passionnée et engagée chez Collective Adventure, un éditeur de jeux de société pas comme les autres, entre choix de fabrication responsable et volonté de créer des jeux à forte valeur éducative. Laura, eh bien, va aujourd'hui nous partager sa vision d'un jeu de société qui a du sens. Bonjour Laura.
Bonjour Mathieu.
Alors Laura, déjà, est-ce que tu es joueuse avant d'être éditrice ?
Ah oui, oui, complètement. C'est même venu, c'est parce que justement avec Jérémy, mon cofondateur, on était joueurs, qu'on a voulu aller plus loin.
D'accord.
Et vraiment associer notre passion pour le jeu avec aussi nos préoccupations plus personnelles.
Alors, peux-tu nous raconter un petit peu la genèse de Collective Adventure ?
Alors oui, donc Collective Adventure, donc c'est un studio bordelais qui va avoir 3 ans le 22 juin, donc
d'accord,
on est encore récent. Et la genèse, en fait, c'est vraiment, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que moi, j'étais bénévole dans une association qui faisait des ateliers de sensibilisation à l'apiculture raisonnée.
D'accord.
Et je découvrais le monde passionnant des insectes pollinisateurs. Et je rentrais le soir, parce qu'on est à la base rôliste.
Ok.
Au Donjons et Dragons d'ailleurs avec Jérémy. Et je rentrais, je lui racontais tout ce que j'apprenais sur les insectes et en parlant comme ça le soir, je lui disais, mais c'est marrant, le bourdon, c'est un peu le druide, ouais. La sorcière, c'est un peu la mouche, c'est un peu la sorcière. Enfin, voilà. Et en fait, c'est vraiment en commençant à parler comme ça qu'on a commencé à créer une espèce de jeu de rôle où on pouvait incarner les insectes. On s'est dit, est-ce qu'on est les seuls un peu étranges à trouver ça rigolo ou pas? On a parlé autour de nous, apparemment non. Et j'ai fait un premier email au laboratoire d'éco-entomologie qui est basé à Orléans pour leur dire, voilà, on est en train de penser à ça, mais on ne peut pas faire ça tout seul parce qu'on n'est pas du tout expert du sujet.
D'accord.
Ça vous dit ou pas? Donc ça a été la création du premier jeu qu'ensuite on a édité. Et la création vraiment du studio et pourquoi le jeu pouvait être intéressant pour parler de sujets environnementaux, sociétaux, c'est dans Repas Famille où on parlait d'une soirée jeu qui avait fini très très tard. Et j'ai un oncle qui m'interrompt pendant que je parle et qui me dit, mais vraiment, vous avez 30 ans passé, vous avez que ça à faire de jouer à votre âge. Voilà. Et donc ça a été le deuxième effet qui se coule. Je pense que ça a éveillé un peu un truc qui était chez nous où déjà on commençait à avoir envie d'entreprendre, on sentait qu'on avait envie de créer quelque chose autour du jeu, mais pas uniquement pour le divertissement, aussi pour tout ce que ça a porté comme valeur. Et je pense que merci à lui parce que ça a été un peu le... Ça a été un déclencheur. On s'est dit, bah, oui, nous, on croit que c'est utile, en fait, et on va te le prouver. Voilà. Donc, c'est vraiment les deux éléments qui ont amené à créer Collective Adventure.
Parce que le nom de Collective Adventure, vous l'avez trouvé comment? Ça évoque la coopération, l'expérience partagée. C'est aussi une déclaration d'intention?
Oui, complètement. En fait, on avait, parce qu'on vient de cette culture jeu de rôle. Moi, j'ai toujours adoré les jeux plutôt coopératifs. On est un studio... de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, ouais. C'est-à-dire que quand on a créé l'entreprise, on a mis les valeurs de l'ESS au cœur de la démarche, donc vraiment, l'aventure, c'était pour cette idée d'immersion et cette culture jeu de rôle au départ, même si on ne fait pas uniquement du jeu de rôle dans le studio, mais il y a toujours c'est des codes qu'on réutilise, et la collective, c'était à la fois parce qu'on adore les jeux coopératifs, on a un ADN fort coopération, et parce que aussi, c'est notre façon de travailler, nous, on est implanté à Bordeaux, dans un écosystème à impact, ESS, donc c'était vraiment les valeurs qui étaient très fortes pour nous.
Et alors, vos jeux se distinguent par une attention particulière à leur fabrication. Alors concrètement, quelles sont les pratiques que vous avez mises en place pour réduire l'impact écologique?
Alors ça va, alors effectivement, c'est les partenaires de fabrication avec qui on travaille. On est à 90% sur de la fabrication française. Au plus loin qu'on est allé, c'est en Allemagne, avec toujours des fabricants éco-responsables, donc c'est dans les matériaux qu'ils utilisent, c'est dans le fait aussi, nous, de ne pas produire trop de volume, en fait, qu'on n'arriverait pas à écouler. Dans la conception de la taille des boîtes aussi, c'est typiquement pour 15 jours en France, c'est le cas, on est aussi sur une boîte compacte.
Ouais.
Notre jeu de rôle, Roll Time, la plaine des bourdonnements, ça aurait pu être une boîte format A4 qui est plus classiquement dans jeu de rôle, mais nous, on a vraiment tenu à faire un petit format parce qu'on voyait pas l'intérêt de faire une boîte trop grande. On préférait qu'elle soit lourde et plus compacte. Donc c'est vraiment dès le départ de la façon dont on travaille.
Ouais.
Et aussi le matériel qu'on va mettre dans la boîte, on réfléchit dès le départ, on sait qu'il y a certains matériaux, en tout cas certains éléments de jeu sur lesquels on n'ira pas parce qu'on sait que ça va complexifier la production en local et parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait beaucoup de plastique dans nos boîtes. Voilà. Donc c'est vraiment dès la façon dont on imagine les jeux. Soit quand on est vraiment nous, ça nous arrive, on a pu être auteur sur les premiers jeux, mais aujourd'hui, quand on travaille avec des auteurs et des autrices, c'est une contrainte qu'on se donne.
Ouais. Et l'éco-responsabilité, c'est au cœur de votre démarche, mais ce n'est pas tout. Vos jeux ont aussi une forte dimension éducative. On le voit avec 15 jours en France, où là, la géographie, on connaît toute la France maintenant. Pourquoi ce choix?
Alors nous, on parle pas de jeux éducatifs, justement, on parle plutôt de ce qu'on parle de jeux à message ou jeux à impact, puisque ce qui est hyper important pour nous, par contre, c'est que le divertissement, ça reste vraiment au cœur de la démarche.
Ouais.
Par contre, on a la particularité de faire des jeux qui abordent des thématiques, on travaille par gamme, c'est-à-dire que ce qu'on fait, en général, c'est qu'on choisit un thème qu'on a envie d'aborder ou parce qu'on sent que ça va être un sujet qui va intéresser. Là, c'était le cas du voyage durable. on choisit une artiste avec qui on sait qu'on va travailler au moins deux ou trois jeux autour
D'accord.
de ce thème.
Ouais.
Et ensuite, qu'on essaye, et je crois, j'espère qu'on arrive à faire ça de façon justement subtile, c'est-à-dire qu'on va vraiment penser la mécanique par rapport à la thématique,
ouais.
Et on va glisser dans le jeu justement cette idée de découverte et de curiosité, mais on voulait pas, enfin non, on ne fait pas des serious games, en tout cas ce qu'on essaye vraiment de faire c'est des jeux pour prendre du plaisir, pour avoir des moments de convivialité, pour se réunir autour d'une table, et si derrière on a réussi à développer de la curiosité ou de l'empathie sur la thématique, ou, ben, ou là dans le cas de 15 jours en France, si on a donné envie sur les prochaines vacances d'aller voir la cascade du hérisson ou voilà, un autre lieu que nous on a découvert en travaillant le jeu, ben, en fait on a gagné.
C'est ça, on découvre plein de lieux avec 15 jours en France.
C'était l'idée, on est nos propres bénéficiaires en fait des jeux, c'est-à-dire que même nous quand on a travaillé avec Rémi Coletta l'auteur et avec Julie Gruet l'illustratrice, en fait on a découvert des endroits qu'on ne connaissait pas, donc c'était hyper intéressant à faire, on a adoré l'expérience.
Bon, et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on a bien la carte Côte de Granit Rose, donc c'est, effectivement, c'est important. Combien de jeux à ce jour?
Alors, 15 jours en France, qui est le dernier sorti, c'est notre cinquième jeu.
D'accord.
On a trois jeux de la gamme Insectes Aventuriers et Biodiversité.
Ok.
Et on a deux jeux de la gamme Voyage Durable, donc 15 jours en France, qui est le jeu de collection et qui est vraiment le titre phare famille. Et on a également, en coédition avec les Fondations de l'Imaginaire, un jeu de rôle pour deux, qui est à deux pas, et qui est là, permet une aventure de randonnée épistolaire, parce qu'on s'envoie des cartes postales pendant 7 jours.
D'accord, ok.
Voilà.
Et est-ce que vous collaborez aussi avec des experts, des enseignants, des pédagogues,
oui.
pour développer vos jeux? Oui.
Oui, complètement. En fait, c'est tout l'enjeu. Donc on a vraiment, nous, cette casquette éditeur pour le grand public, mais ensuite... mais en amont d'ailleurs, pas que ensuite. En amont, quand on veut travailler une nouvelle gamme, on va justement chercher les experts de la thématique qu'on a envie d'aller creuser.
Ouais.
Donc là, on a des prochaines gammes en travail.
D'accord.
Et effectivement, ensuite, on peut aussi travailler avec des enseignants, des animateurs pour pouvoir proposer des versions groupe de nos jeux.
D'accord.
C'est le cas de Buddies, qui est notre jeu stratégique opératif autour de la pollinisation.
Ouais.
Enfin, derrière, on l'a adapté pour que justement des enseignants puissent l'utiliser dans un contexte de classe en fait, où il y a 20 à 30 élèves.
Ouais.
Donc la vie de nos jeux société, elle commence par l'arrivée en boutique, mais en fait nous on les travaille ensuite vraiment pour qu'ils aient une vie autour de la ludopédagogie en fait.
Et est-ce que, par exemple, des offices de tourisme, des villes pourraient vous demander justement des jeux autour de ces choses-là?
Ah ben on adore, hein. On est exactement en train de travailler sur le sujet en ce moment. On a justement des communes et des collectivités avec qui on échange. En tout cas, spécifiquement sur la gamme Voyage Durable,
ouais.
c'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'a imaginé. C'était de se dire, bon ben en fait, on a une version nationale, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer
mais oui.
pouvoir proposer voilà, à des départements, à des régions Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille activement. Et ça a le même sujet sur des parcs naturels pour la gamme biodiversité, par exemple.
D'accord.
Donc, oui.
Le secteur du jeu évolue beaucoup, hein, je pense que vous l'avez tous remarqué.
Ouais, clairement.
Est-ce que tu remarques, toi, une prise de conscience plus large dans l'industrie autour de ces enjeux ou pas du tout?
Ah si, je pense. Ça va. Si, nous on voit en tout cas depuis. Ben, déjà on est assez récent, donc on fait partie aussi de ces nouveaux acteurs qui essayent de faire différemment. Mais je crois quand même que c'est quelque chose qui est en train d'arriver aussi plus globalement chez tous les acteurs du secteur. Après, il y a quand même. C'est un challenge de faire de l'éco-conception aujourd'hui.
Mmh.
Ça veut dire aussi de la pédagogie auprès des joueurs et des joueuses par rapport au prix. Ça veut dire plein de choses. Donc, je pense que ça va mettre aussi du temps à s'installer. Et nous, on essaie toujours vraiment d'avoir cet équilibre économiquement, que pour nous, on arrive à faire les jeux et qu'ils ne sortent pas trop cher pour le public.
Voilà, ouais.
Je crois que tout le monde... je pense que tout le monde a envie d'aller dans le bon sens. Mais après, c'est comment on arrive à le faire chacun à son échelle.
À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois chez Collective Adventure? Il y a des nouveaux projets en cours?
À quoi on peut s'attendre? Alors là, on est vraiment très pris par le lancement de 15 jours. Oui. On va 10 jours au flip cet été.
Ouais.
Avec encore des surprises qu'on développe à chaque fois qu'on va sur un festival. On développe une carte spéciale.
Oui.
Autour du festival. On va faire ça pour Octogone aussi. On est en train de travailler sur un nouveau projet avec justement les fondations de l'imaginaire et on travaille sur une collection commune.
D'accord.
De jeux d'aventure duo. On commence également à travailler sur la prochaine gamme. On est encore en train de réfléchir et les mécaniques et la thématique exacte que l'on veut aborder, mais je pense qu'on va tourner autour de l'alimentation responsable.
D'accord, ok. Donc il y a pas mal de projets alors.
Oui, il y a pas mal de projets. Après, on est un studio indépendant à taille humaine. On a une façon de travailler, une ligne éditoriale qui est quand même très spécifique. Donc nous, on sait qu'en général, si on sort un à deux jeux par an, c'est déjà bien pour nous. Enfin voilà, on sait qu'on ne peut pas aller sur beaucoup beaucoup de nouveautés chaque année parce qu'on prend vraiment le temps et chaque jeu demande pas mal de travail.
Comme
tous les acteurs du secteur.
On édite le jeu, après il faut le distribuer. Justement, c'était facile de trouver un distributeur, c'est Néoludis, hein?
Ça a été, facile. Oui. Alors curieusement, assez. Parce qu'en fait, on leur a parlé avant même de créer la structure.
D'accord.
Un peu à l'étape justement où, nous c'est un nouveau métier, on connaissait pas, hein, donc on a rencontré un peu les acteurs, on essayait de voir est-ce que ça pouvait fonctionner, et on a rencontré Arnaud qui est le fondateur de Néoludis, vraiment au tout départ, quand on était encore en campagne de financement participatif pour Roll Time.
D'accord.
Et c'est une jolie rencontre humaine. Donc oui, ça a été. Ça s'est fait de façon assez naturelle avec eux. Et on est très contents de leur accompagnement, on adore leur équipe. On a de la chance. Ça a été plutôt simple pour nous. En tout cas, naturel.
Merci beaucoup, Laura. À travers ces engagements, on voit que Collective Aventure montre que le jeu peut être un formidable levier de sensibilisation et d'action, tout en restant finalement un espace de plaisir.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci, Laura, et à bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.